Pour moi, la mode, c'est l'un des rares sujets qui touche tout le monde, parce que tout le monde s'habille.
Bonjour, je m'appelle Martine Podesto. Je suis directrice des éditions chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur. Mon invitée d'aujourd'hui est chroniqueuse pour l'émission Les Éclaireurs, diffusée sur les ondes d'ici Radio-Canada Première. Elle a également collaboré aux émissions du Réveil de Station régionale de Radio-Canada ainsi qu'à l'émission de télévision Par ici l'été. Madeleine Goubeau, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci, ça me fait plaisir.
Madeleine, tu es journaliste de mode, diplômée du London College of Fashion, Royaume-Uni. Tu enseignes à l'École supérieure de mode et tu viens tout juste de publier un magnifique premier ouvrage, Maison Marie-Saint-Pierre en 30 tableaux. On peut dire sans se tromper, Madeleine, que tu es une passionnée de mode.
Définitivement.
Oui, définitivement. Dis-moi, ça te vient d'où? Explique-moi la place que prend la mode dans ta vie.
Mais en fait, moi, quand j'étais toute petite, ma mère faisait tous mes vêtements. Et d'ailleurs, quand quelqu'un lui demande à elle d'où vient ma passion pour la mode, elle répond aux gens que quand j'avais 3 ans, j'allais avec elle dans les boutiques de tissus. Et là, on allait argumenter pour quel tissu j'allais choisir pour ma robe. Et là, j'en choisissais un. Elle disait que ça faisait trop madame. Et là, on argumentait.
Oh,
puis les vendeuses trouvaient ça hilarant de me voir argumenter comme ça. Donc, très jeune, j'étais habituée à choisir des tissus, choisir des modèles, être consciente de la qualité de la confection et de l'aspect précieux d'un vêtement aussi, parce que ma mère mettait beaucoup de temps. Et d'ailleurs, ma mère a gardé tous ces vêtements-là par la suite. Mais bref.
Donc, tu les as encore, tes vêtements de petite, que ta mère a confectionnés.
Exactement. Et donc, je pense que mon intérêt pour la mode vient de ça, plus de l'aspect confection, qualité, processus, que l'aspect tendance internationale sur les podiums, je crois.
On va parler du livre que tu viens de publier, c'est ton premier ouvrage, Maison Marie-Saint-Pierre en 30 tableaux. C'est une succession, c'est intéressant comme forme, parce que ce n'est pas un... En fait, c'est un ouvrage hybride, moi je le qualifie d'hybride, entre la biographie dite traditionnelle et le beau livre. C'est une succession de 30 tableaux, de 30 courts textes, de 30 chapitres, parce que, disons-le, la maison célèbre ses 30 ans cette année. Donc, ces courts chapitres racontent de manière très, très, très vivante les éléments clés, les événements clés qui ont façonné... l'histoire, le succès de la marque Marie-Saint-Pierre. Donc, j'imagine que tu es toujours une grande admiratrice de Marie-Saint-Pierre. D'où est venue cette idée de te lancer comme ça dans cette aventure-là?
Mais en fait, il y a évidemment le prestige de la marque, ça c'est sûr. C'est une des marques les plus connues de vêtements de luxe au Québec et au Canada. Donc, je trouvais que ça valait la peine de raconter cette histoire-là au même titre qu'on raconte l'histoire d'un grand peintre ou d'un sculpteur ou peu importe. Mais il y avait aussi le fait que je savais qu'il y avait des histoires savoureuses à raconter parce que j'avais une amie qui travaillait chez Marie-Saint-Pierre depuis quand même quelques années et qui était assez proche d'elle pour entendre des anecdotes comme ça de temps en temps. Et elle me les racontait. Je savais qu'il y avait vraiment une histoire très chouette à raconter et qui pouvait même intéresser les gens qui ne sont pas nécessairement des fans de mode. Et là, je me suis dit, ça, c'est le genre d'histoire qui peut intéresser tout le monde.
Oui. Raconte-moi un peu les dessous de ce livre-là. Comment as-tu pu assembler colliger toute cette information? Parce que c'est énorme ce qu'il y a là-dedans. En fait, c'est 30 ans d'existence, c'est beaucoup. Donc, tu t'y es pris comment?
La première étape, ça a été de demander à mon amie de prévoir une rencontre avec Marie. Donc, j'ai eu une rencontre avec Marie-Saint-Pierre, sa sœur Danielle Charret aussi, qui était présente. Oui. Et là, j'aurais pitché mon projet de livre sur les 30 ans. Et j'avais un peu cogiter mon concept parce que en mode, c'est beaucoup des beaux livres, justement, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de contenu écrit, mais qui ont beaucoup d'images. Et je trouvais que à l'heure d'Internet et tout ça, il y en a déjà beaucoup des images accessibles sur Marie-Saint-Pierre, si on regarde les campagnes et tout ça. Donc, je voulais quelque chose que les gens ne pourraient pas trouver en quelques clics. Mm-hmm. Donc, je suis arrivée avec cette idée de livre en 30 tableaux qui a quand même une dimension très visuelle. Il y a les photos de Dominique Malaterre dedans.
Qui sont magnifiques, d'ailleurs.
Qui sont vraiment très belles. Mais donc, première rencontre, Elle a accepté d'embarquer dans le projet. Ensuite, on a fait quelques rencontres de brainstorming où là, on ciblait les 30 histoires. Il y aurait pu en avoir 60, il y aurait pu en avoir 90, mais on a ramené ça à 30. Et là, ensuite, je l'ai talonnais chaque semaine pour avoir des rendez-vous avec Marie. Souvent, ça se décidait le jour même ou la veille. Elle avait un trou sur l'heure du dîner. On lunchait ensemble. Et là, moi, j'avais tout préparé, mes questions pour chaque histoire. J'arrivais...
Donc, tu avais identifié, je comprends bien, les histoires dans un premier temps. Tu avais comme une manière de table des matières que tu avais toi-même faite en regard de ce que tu connaissais déjà de la maison.
Okay. Exactement.
Et puis, elle te nourrissait pour chacune des histoires.
C'est ça. Donc, j'arrivais avec mes questions et là, on avait environ peut-être une heure pour passer à travers une histoire. Et là, elle me l'a raconté une première fois, vraiment sa vision à elle. Et ensuite, moi, j'y allais en lui disant, bon, quand vous rentrez dans telle pièce, qu'est-ce que vous voyez? Telle personne vous a dit telle chose, comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Donc, je l'amenais à revenir dans des détails très, très précis de son histoire, mais qui me permettait ensuite de la raconter comme si les gens y étaient.
Oui, parce que c'est raconté comme un roman. Ça se lit comme un roman. Du coup, on apprend aussi l'histoire de la maison, mais on a l'impression d'y être, d'être de chacun de ces événements.
Mais je pense que je voulais que ce soit humain. Parce que ça, c'est une qualité qu'on associe pas beaucoup à la mode. Souvent, dans les autres, la mode, c'est froid, que c'est distant, que c'est élitiste, qu'il faut être une superstar pour pouvoir être invité à un défilé ou quoi que ce soit. Donc, je voulais que ce soit une histoire qui montre le côté humain parce qu'il y a un côté profondément humain à la mode. D'ailleurs, c'est probablement une des rares industries qui n'est pas robotisée. Ou c'est encore des humains qui font tout. Donc, je voulais que ça se sente, ce côté-là humain, tant de la fondatrice, de la créatrice, mais des gens qui l'entourent aussi.
Oui, et des gens qui ont porté et qui continuent de porter fièrement sa marque aussi. Tu parles d'humains. Je sais que tu as rencontré Julie Payette, Adrienne Clarkson. Raconte-moi un peu comment ces rencontres-là, justement, ont eu lieu, parce que ce sont des femmes qui ont porté Marie-Saint-Pierre. Donc, tu parles du visage humain. S'il y en a un, c'est bien celui-là, celui des femmes qui la portent fièrement.
Tout à fait. Et ça, j'y tenais parce que la cliente est très importante dans le parcours Marie-Saint-Pierre aussi. Elle habille des femmes fortes. Elle habille des femmes qui ne sont pas nécessairement l'image qu'on a non plus de la grande mannequin filiforme, un peu irréaliste. Donc, elle habille des athlètes. Elle habille des femmes de tout âge. Et je voulais que ça aussi, ça se sente dans le livre. Et ben, elle habille des grandes dames du cinéma, de la politique. Et donc, je suis allée chercher quelques personnalités clés, comme ça, comme Julie Payette. Je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se doutent qu'elle s'habille en Marie-Saint-Pierre et qu'elle a amené une étiquette Marie-Saint-Pierre pour donner de la...
Sur un tout petit papier. Raconte un peu, c'est amusant.
Mais en fait, on sait que les astronautes, quand ils vont dans l'espace, c'est pas eux qui font leur bagage. Tout est réglé au gramme près. Ils peuvent pas porter leur propre brosse à dents. Il y a absolument rien. Et donc, elle s'est organisée pour glisser dans son journal de bord un petit écusson sur lequel il y avait 5 étiquettes de designers québécois, dont Marie-Saint-Pierre, parce qu'elle s'habillait déjà Marie-Saint-Pierre à l'époque. Et donc, elle a pu amener ça dans l'espace. Et dernièrement, elle a retrouvé la photo où il y a l'étiquette qui flotte devant elle dans l'espace. Donc, elle a pris cette photo-là. Mais ça, je trouvais que c'était une anecdote savoureuse que les gens ne savent pas à propos de Marie-Saint-Pierre ou de Julie Payette.
En fait, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le look, si tu me permets, du livre, parce que c'est un livre qui est particulièrement, je trouve, réussi d'un point de vue graphique, qui est très beau, qui est très appuyé par une abondante photographie de Dominique Malaterre. C'est une photographe de Montréal qui a gagné plusieurs prix. Parle-moi un petit peu d'elle.
Mais oui, en fait, c'est assez intéressant parce que Dominique n'est pas une photographe de mode à la base. C'est pas ça son créneau. Et je pense que ça amène une touche intéressante au livre. Qu'on ne soit pas nécessairement allé avec quelqu'un qui fait que de la mode.
Elle a fait le livre, je pense, de toqué.
De toqué, exactement. Ouais. Donc, elle fait tant de la photo de gastronomie que de la photo de structure industrielle, d'architecture et tout ça. Et étant donné que Marie a une approche très artistique de la mode, c'est intéressant d'avoir une photographe qui avait une approche très artistique de la photo aussi, qui est moins dans le, disons, mode commercial. Et donc, à un moment donné, on a eu un rendez-vous avec Marie, puis elle me disait, moi, je voudrais que ce soit Dominique Malaterre pour le livre. Mais connaissant la renommée de Dominique, je me disais, bon, comment est-ce que je vais l'approcher avec ce projet-là? Je veux dire, on n'a pas un budget $1 million non plus pour les photos. Et donc, je l'ai appelée un peu gênée, et elle me dit, parfait, moi, si le design graphique est magnifique, j'embarque.
Quel cadeau.
Vraiment là, une rencontre incroyable. Et donc, j'ai été la voir à son bureau. On a discuté. Elle a dit, je pense que je comprends ce que tu veux. Je vais aborder le projet comme si c'était une exposition d'art contemporain.
Ah oui.
Et là, ça marchait tellement bien avec l'esprit Marie-Saint-Pierre d'avoir ce concept-là pour la photo. On n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Donc moi, j'ai vraiment tout classé quels vêtements pourraient fitter avec quelle histoire et tout ça. Donc j'ai fait une espèce de travail de sélection. Et elle, après, a vu ce qui l'inspirait dans tout ça. Et là, elle a décidé, par exemple, bon, tel vêtement, on va le prendre de très, très près pour avoir la texture. Tel autre vêtement, on va le prendre dans un angle où les gens comprendront peut-être même pas exactement de quel vêtement il s'agit.
Parce qu'il y a des détails aussi.
Et aussi, pour ce qui est du graphisme, ça, c'est Nathalie Caron ici qui s'en est occupée. Et moi, j'avais une idée en tête, je lui ai expliqué, et elle l'a amenée comme mieux et ailleurs. Et elle a vraiment fait quelque chose de beau parce que je trouve que l'esthétique est très Marie-Saint-Pierre et en même temps, ça n'a pas l'air d'une pub Marie-Saint-Pierre.
C'est vrai.
Elle a réussi, je trouve, à prendre l'espèce de signature Marie-Saint-Pierre qu'on voit dans le vêtement d'habitude. Elle a réussi à la traduire en livre, mais on dirait pas une infopub Marie-Saint-Pierre. Et ça, je trouve ça important.
Ouais. Madeleine, au fil de la lecture, on est témoin des défis, des coups d'audace, des grands succès, mais aussi des tempêtes et des événements plus malheureux qui ont jalonné le parcours de la marque et forgé son identité. Quand on lit cette histoire-là, on ne peut qu'être impressionné par le talent de Marie, bien évidemment, mais aussi par son audace, par sa douce folie, ce que je qualifie de douce folie. C'est un personnage plus grand que nature, Marie-Saint-Pierre. Qu'est-ce qui a fait Marie-Saint-Pierre? Comment cette grande créatrice est née?
Il y a eu tellement d'épisodes où moi, je me suis dit, tiens, moi, c'est là que j'aurais arrêté. C'est là que je me serais dit, ça suffit, c'est trop difficile, on va passer à autre chose. Tandis qu'elle, ça, elle a toujours la force de poursuivre. Et je crois qu'il y a aussi un côté très têtu, peut-être, aussi, dans tout ça. Il n'y a comme pas d'autre option. Ouais. On continue, c'est tout.
Mais
c'est
on sent parfois le découragement. Parfois, il y a des mésaventures qui prennent énormément, qui sont extraordinaires. Il y a l'incendie, entre autres.
Oui.
Mais avant ça, c'est démener. Et en fait, on a l'impression aussi que ça a coulé tout doucement, que ça a été facile. Mais c'est un parcours qui n'a pas été facile.
C'est un parcours très difficile. Et à plusieurs moments, ça a été difficile. Donc, dans ses débuts, c'est difficile parce que je présume que tout entrepreneur qui commence vit
de
plein de difficultés
dans ce monde-là aussi.
Il y a ça, il y a le fait que c'était une femme dans un monde d'hommes. Souvent, on pense que la mode, c'est féminin, mais en fait, quand on regarde les gens qui sont
à la
tête de grandes entreprises de mode,
ce sont des hommes
beaucoup. Quand il fallait qu'elle aille chercher du financement, ses interlocuteurs dans les banques, c'était des hommes. Donc, le fait d'être une femme dans ce milieu-là, c'est difficile. Le fait aussi que la mode a connu tellement de chamboulements au cours des dernières années, il y a eu l'invasion des produits asiatiques qui font que la mode est devenue très, très bon marché. Il y a le fait que beaucoup d'entreprises qui sont parties vers l'Asie pour leur production. Donc, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre aujourd'hui à Montréal dans le domaine du prêt-à-porter de luxe. Il y a eu le commerce en ligne, il y a eu Internet, le cycle des tendances qui s'accélère. Donc, je vous dirais qu'à peu près aux 2 ans, Marie a eu une étape difficile et elle réussit à passer au travers. Et c'est vraiment inspirant de voir ça, que c'est possible au Québec en mode si on a cette force-là d'avoir du succès. Et j'espère que mes étudiants en mode vont lire le livre pour voir que ça se peut, si on fonce.
Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on note rapidement, c'est d'ailleurs son esprit créatif qui est inouï. Là. Jeune enfant, elle a été mise en contact rapidement avec la beauté. Elle a été très près de Riopelle, notamment elle et sa famille là, dans le nord, au lac Masson. Tu en parles un petit peu. Et elle a une façon bien à elle de travailler ses vêtements aussi. Cette espèce de création, de manière de créer qui est bien à elle aussi, où elle va travailler les tissus sur les mannequins directement, fait ses retouches, crée carrément ses modèles, c'est que c'est un esprit qui est particulier aussi.
Oui.
Ça tient à sa personne, au-delà du fait que cette femme d'affaires est audacieuse et fonceuse, ambitieuse aussi, on peut le dire. Au-delà de ça, il y a tout un talent créatif et un esprit créatif qui est particulier et qui est bien à elle aussi.
Elle a
lui vient d'où?
Je pense que... Justement, elle a été très tôt en contact avec des artistes et dans sa famille, il y avait toujours des architectes, des écrivains, des peintres qui venaient. Puis là, tout le monde jasait ensemble et puis ça faisait qu'elle était toujours en contact avec justement la créativité. Et je crois que elle a une démarche qui est très authentique de création. Et ça, ça a pu faire qu'à certains moments, peut-être qu'elle n'a pas eu les meilleures ventes de l'histoire, mais vu qu'elle a toujours été fidèle à cette authenticité-là, ça fait que sa marque a pu traverser les époques. Donc, le fait que son processus créatif soit aussi vrai, c'est ça qui fait que ça dure, je pense. Parce qu'en mode, si on suit toujours la dernière tendance, bien, à un moment donné, on ne sera plus à la mode. Ouais. Et puis, on va avoir passé à côté du courant. Et puis, tandis qu'elle, elle est fidèle à elle-même. Ses collections sont une déclinaison de sa propre identité. C'est pas « Ah, je suis allée en voyage en Indonésie, je vais faire une collection indonésienne. » Tu sais, elle a vraiment une identité forte. Mmh. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne, je pense.
Le fait qu'elle travaille aussi ses pièces de vêtements comme des tableaux. On parlait tout à l'heure de Riopelle, mais c'est presque des œuvres de sculpture, ce qu'elle fait. Donc, c'est ce qu'elle fait sa marque aussi. C'est ce qui fait qu'elle travaille avec des modèles presque vivants, ou en fait, des modèles vivants. Et puis, que ça évolue avec le temps, avec les années aussi, puis avec les besoins, la réalité des femmes.
Oui, et je dirais, il y a un côté artistique, mais il y a même un côté scientifique. Marie fait beaucoup de recherche et développement pour ses matières. Donc, elle va encore aujourd'hui, disons, acheter deux tissus parce qu'elle veut les propriétés des deux et elle va les fusionner ensemble. Elle a des procédés secrets où elle réussit à coller deux tissus pour en former un seul. Et ça aussi, ça fait vraiment partie de sa griffe, ça fait partie de sa signature, d'avoir une démarche scientifique derrière le tissu, derrière les volumes. Et c'est ça qui fait que des femmes qui sont très occupées, très pressées, peuvent porter ces vêtements et que ce soit facile pour elles parce que ce sont des vêtements qui ont une efficacité, même derrière leur côté artistique. Ouais.
Qu'est-ce que tu retiens de parmi ces 30 tableaux?
Je pense que je retiens l'épisode à Mérida.
Oui.
Où, en fait, c'est un shooting photo au Mexique où Marie va se faire arrêter par des policiers, elle va se faire relâcher. Ensuite, ils vont sauter la clôture pour aller dans un parc national et tout ça. Et je trouve que cet épisode-là montre bien le caractère informel et toute la débrouillardise qu'il y a derrière même les plus grands noms de l'industrie. Et ça, je crois que c'est présent dans beaucoup d'industries, que ce soit le cinéma, la photographie, la mode. Souvent, les artisans derrière les grands noms qui font les grands titres sont dans cette dynamique de débrouillardise et d'aventure et d'espèces de mission. Et ils se créent des esprits d'équipe et des chimies qui sont spécifiques à ces industries créatives-là. Et ça, je pense que c'est un chapitre qui le démontre bien.
Oui.
Donc ça, je pense que ça montre la dynamique qu'il y a derrière la mode. Et j'ai beaucoup aimé écrire ce chapitre-là aussi.
Oui, mais moi, j'ai adoré le lire aussi. Je pense que c'est le chapitre qui m'a... En fait, c'est très drôle aussi. En tout cas, on va laisser le soin au lecteur de le découvrir. Pour certains, la mode, c'est l'expression de la beauté, c'est de célébrer le talent des créateurs, des créatrices, c'est la fierté de porter un beau vêtement, un vêtement qui traverse le temps, tout ça. Pour certains, ça peut être un carcan. Ou si la mode, et pour toi, la mode, c'est quoi?
Bien, pour moi, la mode, c'est pas juste de dire aux gens « voici quoi porter pour camoufler vos bourrelets » ou « voici ce qui est la tendance du moment », c'est en fait de parler aux gens dans ce qu'ils ont de plus intime parce qu'on c'est proche de notre corps, parce que ça reflète nos choix, ça reflète notre personnalité, ça reflète la société dans laquelle on vit.
C'est une manière de communiquer aussi.
C'est une manière de communiquer et en tant que chroniqueuse à Radio-Canada, souvent, ça va être un excellent outil pour parler d'autres choses. Donc, par le vêtement, je peux parler de politique, je peux parler d'environnement, je peux parler de rencontres culturelles, de contexte économique. J'ai déjà fait des chroniques sur Trump et la mode. Donc, on peut vraiment aller très loin en ayant le vêtement comme point de départ parce que c'est quelque chose qui a un lien avec tout le monde. Si je vous parle de sport, il y a des gens qui ne connaissent rien au sport, mais le vêtement, tout le monde s'habille.
C'est vrai.
Donc, même les gens qui disent que la mode ne les intéresse pas ou qui ne suivent pas les tendances, je peux réussir à leur parler de mode et que ça les intéresse. J'ai déjà fait une chronique sur les brevets derrière les motifs de camouflage des vêtements de chasse.
Ah.
Et ça, ben, les hommes ont adoré ma chronique et ça leur parlait beaucoup. On avait un aspect technologique, on avait un aspect plein air, on avait un aspect chasse. Donc, on peut parler du vêtement de plein de façons et réussir à parler à tout le monde.
Il y a de la mode aussi dans les vêtements, au rayon des vêtements
tout
de chasse?
Tout à fait. Les personnes, les vrais mordus de chasse attendent le prochain motif de camouflage comme certains attendent le prochain iPhone.
Oh,
oui. Tout à fait. Les renouvellent tout équipement.
Oui. Madeleine, dans le cadre de ces émissions de chez l'éditeur, je demande à mon invité de me parler d'un ouvrage ou d'un auteur ou d'une auteure qui l'a particulièrement marqué. Aujourd'hui, tu vas nous parler de qui?
Je vais vous parler de Marie Laberge parce que ce qui m'intéressait dans sa démarche, c'est la façon dont elle utilise le vêtement pour nous amener à voir le personnage et à le comprendre. Et des livres dans lesquels c'est particulièrement présent, c'est dans la trilogie du bonheur, donc Gabrielle, Adélaïde, Florent. Mais j'ai déjà eu la chance de rencontrer Marie Laberge pour discuter de cette question-là avec elle. Et elle me disait... Oui, évidemment, c'est bien présent dans ces livres-là parce que la mode est un peu un protagoniste dans l'histoire aussi, dans le sens où Florent est un designer et tout. Mais même dans ces livres où la mode n'est pas très présente, elle va utiliser le vêtement aussi pour décrire ses personnages, comme même parlant entre autres d'un jeune qui est un peu un rebelle et tout ça. Et elle me disait que le fait qu'il portait des vêtements pleins de trous montrait à quel point c'était quelqu'un plein de trous aussi dans sa personnalité. Donc, c'est un peu comme au théâtre, la façon dont le costume nous amène à comprendre le personnage. Mais dans le livre, le fait de les décrire, ces vêtements-là, peuvent aussi nous amener à faire ça. Et Marie Laberge fait beaucoup de recherches pour que ce soit crédible la façon dont elle est décrite. Donc, si son livre est à une certaine époque, elle va consulter plein de livres, d'images de cette époque-là, se renseigner aussi sur les mœurs des gens. Donc, si elle veut parler d'une femme qui est peut-être pas très respectable, elle va aller à l'église sans son chapeau. Elle portera pas des gants dans les circonstances où on est censé en porter. Donc, elle va beaucoup s'intéresser aux mœurs d'une époque aussi pour qu'on comprenne qui sont les personnages selon la façon dont ils s'habillent.
Ah, c'est intéressant. Et je pense que tu as sélectionné un extrait que tu vas nous lire.
Oui, c'est un extrait qui montre bien à quel point on peut exploiter le vêtement, justement, pour parler d'une personne. Alors,
on t'écoute, vas-y.
Parfait. Oui. Il est question de Florent dans cet extrait-là. Il repense à la jupe évasée de Béatrice, les rangs et les rangs de tulle empesée bordée de satin. Tous ces chiffons, toutes ces matières qui gonflent la silhouette, qui frétillent, encombrent l'œil. Tous ces falbalas excessifs pour faire écran, dissimuler le vide intégral. Des oiseaux, des pies attirés par le brillant, le clinquant, voilà ce que nous sommes. Des linottes qui s'excitent pour rien. Toute cette ampleur autour du bassin, cette taille prise, serrée et les seins rendus pointus par les pinces du corsage, les cols remontés qui présentent les têtes des femmes sur un plateau. Tout le dégoûte. Alors qu'il aurait envie de couvrir Ada d'un long voile liquide qui bercerait son corps, alors qu'il aurait envie de cacher sa maigreur en faisant danser en souplesse un crêpe qui l'effleure sans la définir, qui lui laisserait son mystère et la forme de sa peine, alors que toutes les lignes qui lui viennent sont celles du respect, de la déférence, celles du corps exalté par le flou, la mode souligne, pince, comprime, la mode taille la silhouette avec franchise et brutalité.
Oh là là, c'est magnifique.
Ça décrit bien une époque aussi, je trouve.
Merci. Merci beaucoup, Madeleine, d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'encourage les gens à mettre la main sur ce livre magnifique que tu as écrit. C'est un livre pour les étudiants, les étudiantes, bien sûr, en mode, pour les amateurs de la marque Marie-Saint-Pierre, mais aussi, comme on le disait, pour les amateurs d'histoire à succès, de belles histoires d'entrepreneurs de chez nous. Merci également d'avoir lu l'extrait, très bel extrait de Marie Laberge. Et j'en profite aussi pour dire que cet ouvrage, les gens peuvent se le procurer, a été réédité en format en édition poche chez Québec Amérique la saison dernière. Donc, merci beaucoup,
Ça
Madeleine.
Fait plaisir. Merci de m'avoir invitée.
C'est ainsi que se termine notre épisode de « Chez l'éditeur ». Chez l'éditeur est une production des éditions Québec-Amérique. Notre thème musical est l'œuvre de Monopole et la technique était assurée par mon collègue Philippe Collard. Je vous invite à passer nous voir à notre café littéraire Chez l'éditeur, situé au 7240 rue Saint-Hubert à Montréal. Je suis Martine Podesto et j'espère vous retrouver au prochain épisode de Chez l'éditeur.